BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file rejoindre une salle de marché pour entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne, vous le savez, jusqu'à midi. Et on rejoint donc Tipeee ICAP, où nous attend Sarah Thirion. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ce matin,
ça
on a bien cru qu'on allait monter tranquillement et puis patatras.
Ouais, patatras. Bon, on manque toujours évidemment de bonnes nouvelles. Alors, on espérait quand même que l'éventualité effectivement d'une diminution de certains droits de douane appliqués par les Américains sur des biens en provenance de Chine puisse soulager un peu à la fois nos inquiétudes sur l'inflation pour partie et puis redonner un peu de potentiel de croissance à la Chine. Chine d'ailleurs qui ce matin livrait un PMI composite version KXIN au mois de juin en nette amélioration. Malheureusement, on a des indicateurs qui sont moins flatteurs en Europe avec cet indice PMI composite calculé par S&P qui est ressorti assez affaibli évidemment par le contexte actuel. Et évidemment, on est toujours dans l'expectative à la fois du compte-rendu de la réunion de la Fed qui sera publiée demain, celui de la BCE jeudi, les statistiques de l'emploi vendredi et surtout, évidemment, les publications du mois de juillet, dans la deuxième partie du mois de juillet, qui seront probablement le témoin de quelques ajustements, peut-être à la fois sur le rythme de croissance, mais à minima, en tout cas pour l'instant, probablement sur les profits qui seront entamés, évidemment, par ce contexte d'inflation généralisée.
Voilà donc le cadre que vous observez ce matin. Et puis, il y a quelques dossiers qui retiennent votre attention et on peut commencer par Vivendi.
Alors, Vivendi, effectivement, qui semble continuer de s'intéresser au contenu, en tout cas à cette hydre à deux têtes qu'il a toujours défendue à la fois de diffuseur et de contenu, puisque selon la presse, Canal+ pourrait être intéressé par Starz, qui est une plateforme qui, aux États-Unis, adresse à peu près 20 millions d'abonnés et qui pourrait être un bras armé intéressant pour la distribution du contenu européen de Studio Canal. Et d'un autre côté, on apprend par les échos que Vivendi pourrait être même intéressé par une participation minoritaire dans Lionsgate, qui est la maison mère, en fait, de Starz, et qui détient, en fait, un catalogue de plus de 17 000 séries et films américains. Lesquels pourraient, à l'inverse, venir alimenter la proposition de Canal+ par ailleurs dans le monde. Et donc, on a cette confirmation qu'on est bien dans une course à la détention de contenu premium qui est toujours, en fait, la marge d'ajustement ultime pour les diffuseurs qui souhaitent conserver leur audience et leurs abonnés et même parfois en recruter ou en conquérir. Voilà, on sait que Vivendi doit reconstruire quelque chose après effectivement la mise en bourse du MG et donc reconstruire une histoire. Et on sent effectivement que le groupe souhaite continuer à la fois de développer la détention de contenu et la capacité de diffusion de ce contenu. En tout cas, ces rumeurs semblent le confirmer.
Voilà donc le dossier Vivendi. Puis Safran vous intéresse également?
Oui, on a une reprise de la mobilité aérienne, donc si elle n'est pas trop contrariée par les grèves cet été, on peut être un peu constructif évidemment sur les activités d'après-vente civile sur Safran, qui représente un peu moins de 50% du chiffre d'affaires consolidé du groupe, surtout si effectivement à un moment la Chine cesse ses restrictions, puisque la Chine représente 19% de la base installée des moteurs CFM. Alors, évidemment, il faut rester extrêmement vigilant sur la chaîne d'approvisionnement et sur l'inflation qui vont venir pénaliser la partie première monte, mais sur la rentabilité, puisque évidemment, au chapitre de 2022 et de 2023, non seulement le groupe va devoir affronter un contexte inflationniste, mais en plus, effectivement, on a une accélération des livraisons de moteurs LEAP qui, à ce rythme-là, continue de générer une marge négative. Mais en revanche, on pourrait probablement avoir une bonne surprise sur l'après-vente civile de Safran qui sera publiée au titre du S1 et de se projeter, de se dire effectivement que l'activité de cette activité-là pourrait renouer avec les standards de 2023 et donc redonner peut-être un peu de momentum au dossier.
Merci beaucoup Sarah. Merci. Sarah Thirion donc qui nous accompagne régulièrement chez Tipeee ICAP pour lire cette séance chaque mardi.
BFM Business, BFM Patrimoine, le face-à-face.
Face à face ce matin entre Régis Béguet et Laurent Denys. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là ce matin. Régis Béguet pour Lazard Frères Gestion et Laurent Denys pour Odo BHF Asset Management. Bon, comment est-ce que vous voyez cette tendance de début d'été là, pas facile de travailler les marchés. On a des petits espoirs dans la première heure et puis on se prend des grosses déconvenues.
Oui, alors on est dans une situation où on est un peu dans l'absence de nouvelles là, puisque on est rentré dans la période qui précède les publications. Donc ce sont des marchés qui sont vraiment dirigés par les aspects macroéconomiques.
Oula,
c'est moi qui dis ça.
Téléphone.
Désolé, pardon.
ça arrive.
Par les aspects macroéconomiques et par conséquent des marchés qui reculent par anticipation de cette dégradation de la macroéconomie par l'effet de la hausse des taux qui suit elle-même l'inflation, et donc on est beaucoup dans la projection, beaucoup plus que dans la réalité, parce que la réalité, on a eu quelques indices qui se sont légèrement dégradés, mais globalement on est toujours dans une situation qui est extrêmement favorable, bien entendu avec la hausse des prix de l'énergie et la hausse des taux d'intérêt consécutive à l'inflation. On anticipe que cette conjoncture va finir par se dégrader dans la deuxième partie de l'année, même si on n'en a pas encore vu les prémices aujourd'hui. Et donc c'est ce qui dirige les marchés actuellement.
Vous voyez les choses comment, Laurent? C'est délicat quand même, cette petite période.
Je pense que le marché est passé d'un mode où le paramètre essentiel c'était l'inflation à la probabilité de récession, qui a effectivement pris un petit peu d'envergure avec les chiffres macroéconomiques, et Régis l'a dit, hein, qui se sont détériorés un peu partout. Un peu partout, sauf en Chine quand même, sauf au Japon, ça reste quand même sur des niveaux plutôt intéressants. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une baisse des taux. Et ça, c'est quand même vraiment important. Les taux, en fait, sont passés de 3,5% à moins de 3% aux États-Unis. Et puis, on a à peu près eu la même chose en France. On est à moins de 2% aujourd'hui. C'est donc aussi le signe que, finalement, la crédibilité des banques centrales commence à être remise un petit peu en question. Mmh. Et c'est un paramètre qu'on va suivre. La guerre, bon, on va voir ce qui se passe. Et puis, on a un événement quand même aussi très important, hein. C'est l'arrêt de Nord Stream pour la maintenance pendant 10 jours. Et puis, la possibilité de couper le gaz de la part de M. Poutine, avec des impacts qui sont quand même très importants. Mais si on essaie de s'extraire de ce phénomène-là, il y a quand même des signes plutôt positifs. Le premier, c'est le fait que la Chine, effectivement, retrouve un petit peu de croissance avec une politique monétaire agressive, une politique fiscale qui commence à prendre de l'ampleur. On est pourtant, pour le moment, à peu près à 2% du PIB qui est engagé. On était à 6% en 2020, donc il y a 4% qui peuvent être mis sur la table. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va être mis sur la table parce que la décélération de la croissance chinoise est trop importante. Mmh. Ça met en péril le pacte social. Donc, les élections de M. Xi Jinping sont en jeu. Et donc, ça va se faire. C'est plutôt un bon signe. On a aussi les prémices en fait d'un pic d'inflation alors plutôt aux États-Unis, pas en Europe. Pourquoi? Parce que le prix du gaz a explosé et forcément ça va avoir des effets de bord. Donc ça, c'est plus aux États-Unis, mais c'est aussi un bon signe. Et puis Régis l'a évoqué, on est dans une période macro, mais on va rentrer dans la période micro. Et là, oui, en fait, on a toute la problématique des résultats des sociétés. Oui. Bon, ça vaut 11,4 fois les bénéfices, alors avec des bénéfices qui sont peut-être surestimés, mais même si on crache les bénéfices, on serait sur des niveaux de 13 fois qui sont inférieurs finalement à des métriques historiques. Donc, et si on regarde le high yield, parce que c'est aussi intéressant de voir un peu ce qui se passe sur le crédit, alors oui, c'est extrêmement chahuté, mais aujourd'hui on est sur des niveaux de plus de 7,5% de rendement sur les obligations de moindre qualité. 7,5% de rendement, pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est une probabilité de défaut cumulé sur 5 ans de presque 50%. Donc on commence à avoir une certaine rémunération du risque. Est-ce que la valorisation, ça suffit? Non, on reste prudent, mais quand même là, on a changé un petit peu d'angle d'attaque et peut-être à trouver des opportunités. Et il y en a, commence à y en avoir.
Bon, malgré tout, alors effectivement en Chine, on est un peu sur un autre rythme, mais sinon partout, il y a le problème de cette inflation, il y a la question des banques centrales, 75 points de base peut-être 75 encore attendus pour la Fed, et puis la BCE le 21 avec des Nordiques qui nous disent qu'il faut mettre 50 points de base, donc des banques qui sont a priori de plus en plus restrictives, et donc avec la question de la récession au coin de la rue ou pas.
C'est vrai, la récession elle est aujourd'hui probable, récession technique dans les deux zones, à la fois aux États-Unis et en Europe. Mais avec une causalité qui est quand même assez différente, une situation qui est assez différente entre les États-Unis et l'Europe, qui s'est un peu écartée avec l'affaire de l'Ukraine et de la Russie, puisque ça a modifié les ressources énergétiques en Europe et ça a créé une inflation sur l'énergie en Europe qui n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. À la fois parce que sur l'Europe on a le triple effet du pétrole, du gaz et de l'électricité, avec des prix du gaz et de l'électricité, des prix de marché qui sont devenus complètement stratosphériques et insupportables pour les économies et pour lesquelles les États vont devoir intervenir, peut-être modifier la structure du marché, re-régulariser ces marchés, ou en tout cas en changer le mode de fonctionnement, quelque chose d'assez profond. Et il faut ajouter à cela le fait que le pétrole, c'est le même prix pour tout le monde, mais pour l'Europe, il est en dollars. Et le dollar est au plus haut de ces 20 dernières années. Et donc la situation est assez différente pour les Européens qui payent toujours leur baril 120 $, mais avec un dollar à 1,03, vous venez de le citer, alors qu'on avait un dollar à 1,50 quand il était déjà à 120 il y a une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que la situation de ce point de vue en Europe est plus pesante. Cependant, le taux de chômage est au plus bas en Europe historique aussi, il est à 6,8%. Le taux de chômage est extrêmement bas aux États-Unis, la conjoncture aux États-Unis est encore excellente. Donc ce qui amènera la récession aux États-Unis, c'est vraiment la Fed. C'est-à-dire que c'est vraiment la lutte contre l'inflation, et donc une politique de taux court assez agressive, parce que la Fed a pris du retard, évidemment, sur cette lutte contre l'inflation, après pratiquement une année de déni. Et bien entendu, elle est obligée aujourd'hui d'être extrêmement restrictive. Mais voilà, on pourrait avoir, partant de niveau d'une économie qui est quand même extrêmement solide, on pourrait avoir une récession qui soit encore une fois une récession technique et qui soit pas si dramatique que cela aux États-Unis. En Europe, c'est un peu moins à cause de l'inflation, un peu plus à cause de la conjoncture, donc un peu moins à cause de la Banque Centrale Européenne, ce qui explique aussi ce qui se passe sur le plan des devises. Une situation qui est un peu moins favorable quand même en Europe, qui va être un peu plus compliquée.
Comment vous l'appréhendez, cette question de l'inflation, des banques centrales, de la récession? On a notamment en vendredi le chiffre de l'emploi aux États-Unis qui va nous donner un petit peu le thermomètre de la Banque centrale américaine, parce que c'est bien là-dessus qu'elle observe l'effet de ses, ou qu'elle entend observer l'effet de ces baisses des taux en faisant remonter le taux de chômage.
Je crois qu'il ne faut pas douter de la volonté des banques centrales de tuer l'inflation au détriment de la croissance. Et ça, aux États-Unis, c'est clair. Pourquoi ? Parce que la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est ces effets de second tour, cette spirale prix-salaire qui s'est mise en marche et qui, effectivement, peut rendre l'inflation incontrôlable. Donc, je trouve que le marché, là, était peut-être un peu agressif dans ses orientations sur les taux, mais là est devenu un petit peu complaisant. Et aujourd'hui, douter de la volonté de la Banque centrale avec ses pressions politiques, parce que M. Biden là, va être confronté quand même à des élections mid-term en novembre, et je vois mal la Banque centrale changer son fusil d'épaule sur la période. Donc on va voir une trajectoire de hausse des taux agressive, avec un pas, il ne faut pas l'oublier, qui est passé à 75 points de base. C'est énorme, ce sont des chocs en fait, vraiment sur les conditions financières et donc sur la consommation, sur la confiance et la consommation qui vont se voir sur les marchés. En plus, on a une problématique d'inventaire qui fait qu'effectivement, on va avoir une récession. La vraie question, et vous l'avez posée, c'est de savoir si on va avoir une récession bénigne ou une récession plus forte. Effectivement, notre sentiment aussi, c'est que c'est une récession plutôt bénigne vers laquelle on se dirige. Bon, donc de ce côté-là, aux US, récession bénigne, c'est pas encore dans les prix, les valorisations sont encore tendues, et les durcissements des conditions financières vont impacter la confiance et donc la croissance, et donc finalement, il est urgent d'attendre. En Europe, la Fed est en retard, Oui, mais alors si on parle de la Fed en retard, mais Madame Lagarde, elle est où là? On n'a même pas commencé. Enfin, on va avoir 25 points de base, peut-être 50, personne n'est d'accord. L'outil, on ne sait même pas exactement quelles sont les conditionnalités, comment il va se mettre en place, de fragmentation. Hein.
Ouais, l'outil anti-fragmentation annoncé dans la... dont l'étude avait été annoncée au moment de
si
cette conférence
impromptue. Vous entendez le discours de M. Nagel hier, qui est le président de la Bundesbank. Enfin, vraiment, il attend de la conditionnalité. Donc, on est dans une confrontation à l'intérieur même du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui fait qu'on n'a pas l'air d'être d'accord sur le timing et puis l'ampleur en fait de ces hausses de taux et donc l'impact éventuellement récessif. Ouais, je vous rejoins, hein. C'est compliqué notre métier en ce moment. Hein.
Non, mais, enfin, voilà, et c'est aussi pour ça que l'euro touche ses plus bas, là, par exemple ?
Aujourd'hui, oui.
On bas de 20 ans, là, quand même, hein, ouais, 0,306.
C'est, je pense que c'est lié à ça, effectivement, parce que autant on ne doute pas de la direction de M. Powell, autant Mme Lagarde, on voit bien que la problématique de la fragmentation, cette épée de Damoclès du gaz qui a été évoquée, mais ça peut nous emmener dans une récession beaucoup plus forte. Et la différence, elle est là. Récession bénigne, récession forte. Et donc, derrière, que va faire Mme Lagarde? Est-ce qu'elle va vraiment monter les taux? Oui, mais attention à l'inflation importée. Donc, on est dans une sorte de spirale où Mme Lagarde est dans... Enfin, j'ai pas envie d'être à sa place, hein, attention, c'est clair.
C'est pas une offre de...
Ah non, mais honnêtement, elle est dans une situation où elle s'est elle-même un peu cornerisée parce qu'ils sont arrivés trop en retard. Et puis après, les événements font qu'aujourd'hui, il faut monter les taux, mais monter les taux, c'est peut-être nous emmener dans une récession forte qui va faire que derrière, on va baisser les taux. Donc oui, c'est très compliqué à appréhender.
L'euro à son plus bas niveau depuis 20 ans.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec Laurent.
Vous voulez pas non plus le job?
Si, non, je veux pas non plus le job. La situation est très compliquée parce qu'en Europe, en plus, on a le problème de l'écartement des spreads des pays périphériques, qui fait que l'outil a des conséquences secondaires, des effets secondaires qui sont immédiats et qui sont assez forts. Et donc, effectivement, il y a une réflexion pour mettre en place des contre-mesures permettant de compenser cet effet sur les pays périphériques, mais qui vont être difficiles à mettre en place et qui vont se heurter, bien entendu, à l'opposition des pays qu'on a coutume d'appeler les pays vertueux. Je ne sais pas si ce terme est tout à fait exact, mais en tout cas, voilà, on va retourner quand même dans ce type d'opposition qui dure depuis au moins une dizaine d'années. Et effectivement, ça a pour conséquence que l'euro baisse. Alors sur l'inflation importée, attention, parce que la baisse de l'euro est aussi un facteur d'inflation importée, notamment par le biais des matières énergétiques, mais pas seulement, de l'ensemble des matières premières dont la plupart traitent en dollars. Et par conséquent, la capacité de la BCE à laisser l'euro se dégrader encore beaucoup est à mon avis limitée, et ça renforce la pression sur la BCE pour remonter de ses taux de manière un petit peu plus active et un petit peu plus claire qu'effectivement ce qui a été dit jusqu'à présent, qui était quand même un discours un peu déjà très tardif, encore plus tardif que celui de la Fed, et encore un petit peu en demi-teinte, puisqu'on attendait une hausse des taux le mois dernier. Finalement, elle a été annoncée pour le mois prochain. On voit quand même que il y a du retard à l'allumage, et l'euro à 1,03, ou le dollar à 1,03 plus exactement, ça va devenir problématique sur l'effet de l'inflation importée aussi.
Hein. D'autant qu'il y en a...
Peut-être juste Cédric une réaction par rapport à ça. On se dit, bon, l'inflation monte, la BCE va monter ses taux. Il se passe quoi sur le marché des taux? Ils baissent ce matin, les taux à 10 ans baissent. Mmh. Donc vous voyez qu'en fait, cette problématique inflationniste, en fait, elle est plus si importante. Pourquoi? Parce que la récession qui, effectivement, va être précipitée par ce mouvement des banques centrales effraie encore plus le marché. Donc on est là dans une première réaction qui est assez intuitive, qui est de dire, bon ben voilà, la BCE va monter ses taux, les taux vont monter. Ben non, en fait, c'est plus ce qui se passe dans le marché. On n'est plus dans la même logique, en fait, de corrélation entre les taux montent, les marchés actions s'ajustent à la baisse. Non, là, on est dans une optique un petit peu différente. Et c'est ça, c'est ce nouveau paradigme-là qu'il faut appréhender. Cette balance entre les problématiques inflationnistes et puis derrière, immédiatement, les problématiques récessionnistes. Et là, il va falloir que le marché trouve un équilibre. Il ne l'a pas trouvé. Et c'est pour ça qu'on baisse aujourd'hui encore. Hein.
Voilà donc ce regard macroéconomique. Et puis, vous l'avez souligné l'un et l'autre dans votre propos liminaire, on va rentrer dans la période des publications de résultats qui vont émailler ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez y chercher ? Parce que j'imagine que le coup d'œil dans le rétro, enfin bref, le bilan du semestre... Il va pas nous révéler beaucoup de surprises. En revanche, aller chercher dans
il
la
peut nous révéler plutôt de bonnes surprises. Moi, ouais. Je m'attends plutôt à une bonne saison de résultats du deuxième trimestre, parce que la conjoncture au deuxième trimestre, comme on l'a dit précédemment, était très bonne, hein, à la fois en Europe et aux États-Unis, avec la problématique de la Chine qui était un peu plus compliquée parce qu'il y a eu les fermetures et il y a eu les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Mais globalement, malgré les confinements en Syrie, en Chine, les chaînes d'approvisionnement ont commencé à se régulariser un petit peu. On a vu d'ailleurs la production automobile qui a très fortement progressé. On voit que quand même tout ça se met à peu près en place. Et par conséquent, moi je m'attends à un assez bon deuxième trimestre, parce que vous aurez un effet prix qui va être très positif. Cette inflation qu'on évoque, eh bien, elle commence par une inflation du prix final avant que les prix des matières premières ne soient répercutés dans les comptes des entreprises. Donc un effet marge assez positif. Donc je pense que le marché va être plutôt agréablement surpris sur les publications, en moyenne, hein, évidemment, avec, en revanche, un discours des chefs d'entreprise qui risque d'être très prudent, parce qu'ils voient bien qu'il y a la problématique de l'énergie, ils voient bien qu'il y a la problématique de l'Ukraine, ils voient bien qu'il y a la problématique des banques centrales. Alors, c'est vrai que la Chine, il y a eu un changement récent. La Chine, c'était un peu l'endormie de ces 3-4 dernières années, et qui est en train peut-être de se réveiller, malgré, encore une fois, ces confinements un peu bizarroïdes. Mais bon, après, on va avoir les élections en octobre, tout ça va se libérer. Donc, peut-être un regard qui va se reporter à nouveau sur l'Asie, qu'on avait un peu oublié ces derniers temps. Mais globalement, on s'attend à un discours des chefs d'entreprise qui risque d'être assez prudent, non pas parce qu'ils ressentent déjà les effets dans leur carnet de commandes, mais simplement parce qu'ils anticipent, comme nous ici, eh bien, que la conjoncture va se dégrader.
Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette période de publication, dans le discours des management ?
On va regarder un petit. On va regarder. Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'on risque d'être plutôt surpris. Avec un paramètre complémentaire, c'est la dépréciation de l'euro qui a un effet positif sur les exportateurs. Donc, effectivement, ça va être plutôt favorable. Non, ce qu'on va regarder, nous, plus spécifiquement, c'est la hausse des coûts de financement. Et en fait, on est en train vraiment de rentrer dans un cycle où on va avoir un pincement des marges et peut-être en fait un effet ciseau entre du revenu marginal et des coûts de financement qui montent. C'est un peu ce qui se passe sur l'immobilier en ce moment, avec en fait une tension sur les spreads qui fait que derrière le marché s'interroge sur la capacité à se refinancer des sociétés. Et là, on va rentrer dans une dissociation entre les sociétés qui ont des bilans solides et celles en fait qui vont devoir se refinancer et qui n'ont pas des bilans solides. Et là, c'est vraiment ce qu'on va observer avec finesse. On va peut-être retrouver justement un momentum plus favorable pour les valeurs de croissance de qualité. Et on l'a vu là, le dernier mois, d'ailleurs, elles ont retrouvé un petit peu de couleur par rapport aux valeurs des cotées qui avaient plutôt bénéficié de ce cycle un petit peu inflationniste qu'on vient de traverser. Donc, s'il y a un paramètre qu'on va observer avec attention, c'est celui-là.
Est-ce que vous dites que ce marché, malgré tout, qui ce matin passe sous les 5009, il offre des opportunités, ou pour le moment vous diriez on va garder les mains dans les poches et on...
Non, c'est difficile, parce que je pense que sur un plan de la valorisation, on a fait quand même un bon bout du chemin. Il y a eu quand même deux phases de baisse qui sont assez différentes. Hein. Une première phase de baisse qui était liée à la valorisation, à la survalorisation des valeurs de croissance et de l'économie digitale au sens large, plus une dégradation de la croissance du digital qui avait été boostée par les effets Covid et qui s'est renormalisée. Donc il y avait une sorte de normalisation des valorisations dans la première jambe. La deuxième jambe, elle est liée à une anticipation de la dégradation de la conjoncture qui, encore une fois, ne s'est pas matérialisée par les résultats des entreprises, ni par des profit warnings, ni par quoi que ce soit à ce stade, mais dont on a déjà anticipé une assez grande partie, avec des baisses sur certaines valeurs sensibles à la conjoncture, très significative, hein, de l'ordre de 20, 30, 40%, partant de niveaux qui étaient déjà des niveaux de valorisation qui étaient relativement bas. Donc, d'un point de vue valo, le marché commence à être assez attrayant. Maintenant, il est toujours difficile de, comme on dit, d'acheter un couteau qui tombe, d'attraper un couteau qui tombe, plus exactement, et donc d'acheter le marché avec un vent contraire de dégradation d'annonce qui va être continue. C'est vrai qu'on l'a évoqué, on voit pas beaucoup de bonnes nouvelles quand même à l'horizon. Donc c'est difficile de se dire aujourd'hui c'est le moment d'acheter alors que les nouvelles globalement vont continuer d'être mauvaises, même si les niveaux de valorisation commencent à être attrayants. Mais c'est vrai qu'on peut raisonnablement, après la baisse qu'on vient d'avoir, se dire qu'on est quand même sur un point de stabilisation des marchés actions. Ouais.
Vous imaginez déceler des opportunités ou effectivement vous vous dites on va attendre que ça se stabilise un peu?
Non, il y a des opportunités. Hein. On avait fait un call sur la Chine et un petit peu tôt, hein. Je le reconnais bien volontiers, mais qu'on accentue en fait. Hein. On considère en fait que les valorisations et même les anticipations en fait de résultats ont vraiment corrigé. Donc ça c'est plutôt une zone sur laquelle on se repondère de manière assez importante. Sur l'Europe, je suis assez d'accord avec vous, Régis. On est aujourd'hui dans une configuration où les valorisations sont intéressantes, mais il y a encore trop d'incertitudes pour pouvoir vraiment se repositionner. Et encore, j'ai envie de dire, attention, il faut raisonner en taux réel aujourd'hui, puisque évidemment, il y a l'inflation et donc l'érosion du capital. Mais on est allé à 11 fois, et même si on anticipe une baisse des bénéfices, on est peut-être à 12 fois, ça fait 8% de rendement sur du long terme, ou 7,5% sur des obligations au rendement. On commence à rentrer dans des anticipations de rendement qui vous prémunissent contre cette érosion du capital. Il faut avoir ça en tête. On est un petit peu trop dans un court-termisme aujourd'hui, et cette inflation, elle va vraisemblablement pas rester sur ces niveaux.
D'accord.
Quelque part, si la croissance potentielle reste sur ces niveaux-là, 8% de rendement attendu, ça commence à se regarder. Voilà. Donc, un peu plus constructif.
Non, et puis c'est vrai que si inflation pérenne il devait y avoir, ce qui est peu probable, mais c'est la meilleure classe d'actifs restera toujours les actions, hein, quand on est porté par l'inflation. La seule classe d'actifs qui est capable de pleinement répercuter l'inflation, c'est la classe d'actifs actions. Hein, donc, sur le long terme, c'est certain.
Les regards de Régis Béguet et Laurent Denise ce matin sur le marché, les grandes questions de conjoncture. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent pour Odo BHF AM et Régis Béguet pour Lazard Frères Gestion. N'hésitez pas non plus à retrouver nos podcasts si vous avez envie de réécouter tel ou tel moment de l'émission. Ils vous attendent sur le site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on file tout de suite sur les marchés, rejoindre Jean-Louis Cussac qui suit pour nous la séance du jour depuis ses bureaux de Perceval Finance Conseil. Rebonjour Jean-Louis. On a pas mal de questions parce que d'abord on continue à glisser sur le CAC et puis il y a aussi l'euro qui nous préoccupe avec ce plus bas de 20 ans touché 1,0306. Jusqu'où ça pourra glisser? Alors penchons-nous sur ces deux toboggans finalement, celui du CAC d'abord.
Bah, le CAC, faut relativiser par rapport au niveau atteint les jours précédents. On n'est pas revenu encore sur des plus bas. On n'a pas cassé les plus bas du mois de mars. On peut quand même considérer que ce que l'on voit là, il faut toujours pas, parce que c'était le piège précédemment. Je vous disais, il faut pas le surinterpréter non plus. Il y a rien. Vous vous rendez compte, il est 11h30. On n'est pas à 600 millions d'échangés. On est à 590, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte ? C'est misérable. Bon, c'est vrai que Wall Street était fermé hier soir. Tout n'est pas reparti. Mais tout de même, c'est quand même assez significatif. On a une volatilité implicite qui reste qu'à 24 à peu près. Donc là, on est dans la méfiance toujours. Mais elle n'augmente pas fortement. On est même un petit peu en dessous de 24, c'est pas si méchant que ça. Le marché, il glisse parce qu'il n'y a rien en face. C'est pas parce qu'il y a des grosses ventes. Maintenant, c'est vrai, quand on regarde certaines valeurs, l'accumulation des baisses depuis un mois, pour certaines valeurs, c'est très très important. Il y a beaucoup de valeurs qui ont perdu 20% et davantage. Parmi les valeurs du groupe A, hein, c'est quand même significatif. Donc ça, c'est inquiétant. Mais en même temps, c'est difficile d'estimer je suis vendeur. Ok, c'est baissier. Là, par exemple, on a stabilisé pendant une demi-heure et puis on a fini par recasser le plus bas. Donc, il n'y a aucun signal, aucun signe de reprise potentielle. Pour l'instant, il n'y a rien. Maintenant, si on dézoome, on l'a déjà vu, on s'est déjà retrouvé dans des situations comme ça. Et quelques heures plus tard, en fin de séance, ça se mettait à monter. On ne savait pas pourquoi et on reprenait 100, 150 points. Donc, voilà, il ne faut pas trop surinterpréter. Mais ce n'est pas beau, c'est vrai, ce n'est pas joli. L'euro-dollar, bah lui, c'est parce que il y a des inquiétudes qui sont beaucoup plus fortes, si vous voulez, à cause de l'énergie notamment, sur la zone euro, sa couverture en énergie, le coût que ça va lui amener par rapport à la zone aux États-Unis, où là, eux, il y a de l'énergie, ils en ont. Donc, il y a une vraie logique dans tout ce qui se passe. Maintenant, les nouvelles, les mesures qui seront prises, etc., tout l'aspect politique peut amener des modifications dans la perception des choses. Mais pour l'instant, c'est vrai que manque de visibilité, tout ce qu'on voit, c'est pas bon. Mais attention, c'est vrai qu'il y a quand même des sociétés qui ont des capacités à conserver de bonnes marges, etc. Et c'est vrai que des affaires, il y en a peut-être à faire. Mais bon. Il n'y a pas le timing, si vous voulez. Donc pour l'instant, tout est orienté à la baisse, c'est moche. Et voilà, et pour l'instant, il n'y a pas d'indication de reprise d'intraday, ça c'est sûr.
Et sur l'eurodoll ?
Donc sur l'eurodoll, ne sais pas, pour l'instant.
Moi, il y a cette espèce de baisse, de canal baissier qui s'est installé. Il y a des supports qui, manifestement, c'est ce qui se partage un peu, qui ne devrait pas être cassé, parce que sinon, on ne sait pas où on va.
Non, je pense que vous savez, on a tellement baissé qu'il ne faut pas imaginer de situation de breakout. Cette situation de baisse, parce qu'on vient de 1,20 en ligne droite, là, tout doucement, mais enfin, je veux dire, c'est quasiment une ligne droite dans le long terme. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans une situation où des breakouts peuvent déclencher des accélérations. Non, non, non. Si vous voulez, les mains faibles, ils ont lâché depuis longtemps. L'euro-dollar, si vous voulez, ce qu'il faut regarder, c'est à partir de quel niveau de reprise on peut considérer que c'est significatif et qu'on peut avoir un signal donc de hausse. Bon, ben, c'était 1,08. Alors, c'est vrai que là, on était 1,06 et quelques, donc on s'en est éloigné, on est à 1,03. Vous savez qu'on est même passé ponctuellement sous 1,03. Et donc, c'est vrai, voilà, on reste baissier. Donc, il faut se concentrer sur comment aborder la situation de rachat de positions short si on est vendeur dans le trading que l'on réalise depuis des jours, des semaines et voire des mois, parce que voilà, on est toujours orienté à la baisse. Maintenant, se dire qu'on peut aller à 1,02, 1,01, est-ce qu'il y a vraiment un niveau psychologique à part le 1? Je ne pense pas. Donc là, ce qui est important, c'est que on est assis là, on est face à des réalités économiques. Il y a une convergence entre le mouvement et la situation potentielle de dérapage de l'économie européenne face à l'économie américaine.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, qui nous accompagne régulièrement sur l'antenne pour diagnostiquer un petit peu les variations techniques de ces différents actifs. On vous rappelle les données du problème en ce moment. Le CAC en baisse d'un 44%, 5868 points. Et l'eurodoll qui est à 1,0305, quasiment son plus bas depuis 20 ans.
BFM Business Partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business.
Et c'était le 21 juin dernier que s'est donc tenu le 4e sommet BFM Patrimoine au Carrousel du Louvre. Et comme lors de chaque édition, eh bien nos partenaires nous accompagnent au cours des semaines qui précèdent et suivent l'événement. Éric Cossera est avec nous, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci de prendre ces quelques minutes, président de Perial. On va illustrer une nouvelle étape de MiFID qui se profile dans quelques semaines maintenant.
Effectivement, donc à partir du 1er août, vous savez que tout conseiller doit établir vis-à-vis de son client un KYC, donc c'est un terme anglo-saxon qui veut dire Know Your Clients, et qui est une contrainte réglementaire pour bien vérifier l'adéquation du besoin du client avec les produits que va offrir donc le conseiller. Et à partir du 1er août, il y a des données nouvelles qui vont intégrer ce KYC, qui sont des données notamment ISR, donc à la fois environnementale, sociétale, de gouvernance, parce que l'ISR est une lame de fond qui est en train de...
Donc c'est-à-dire qu'auparavant, on faisait connaissance, entre guillemets, avec son client de manière financière, un peu juridique, enfin voilà. Et là, maintenant, on va regarder son appétence au green, quoi, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Avant, on vérifiait les compétences financières, le degré de risque, le degré de performance que recherchait le client, donc dans un univers extrêmement, extrêmement financier. Et maintenant, comme à l'instar de tous les produits d'épargne, c'est-à-dire
on verdit les fonds, donc on va verdir les clients.
Des critères extra-financiers pour bien vérifier également est-ce que le client a une appétence pour ça et qu'est-ce qu'il souhaite exactement.
J'ai envie de dire que de facto, la plupart des grands produits étant maintenant estampillés ISR, généralement, le client, il a forcément une épargne qui se ISRise, non ?
Forcément, ouais. Le client a envie et il veut participer également à des produits d'épargne beaucoup plus vertueux. Simplement, c'est qu'il a peut-être un degré de connaissance qui n'est peut-être pas suffisant. Et justement, c'est donc le rôle du conseiller de pouvoir vérifier et tester son degré de connaissance et voir un petit peu où est-ce qu'il peut l'amener en fonction effectivement des différents produits et de son appétence.
Et donc, cette nouvelle réglementation, vous l'avez traduite en SCPI ?
Alors, Périal est un acteur très engagé sur le plan environnemental et sociétal. Et nous avons maintenant l'intégralité ou la quasi-intégralité de notre gamme de produits qui est labellisée ISR. Il nous reste encore quelques produits à faire. Nous avons encore un petit bout de chemin là-dessus. Mais c'est un engagement très fort. Et donc, notre engagement très fort, il se manifeste à la fois sur des produits qui sont à la fois qui ont des performances financières, mais également des performances extra-financières, environnementales et sociétales essentiellement. Et puis également, notre engagement est de former les conseillers en gestion de patrimoine à ces nouvelles pratiques et à ces nouvelles normes. Et nous avons lancé pour cela l'ISR Académie et qui donc est ouvert aux conseillers en gestion patrimoine de manière à les former et les éduquer sur ce que c'est effectivement le produit ISR de manière à ce qu'ils puissent après ça le proposer à leurs clients.
Donc des CPI et puis tout ça fait aussi écho au succès de votre SCI Périal Eurocarbone.
Alors effectivement, nous avons lancé une nouvelle SCI qui est à l'instar de nos SCPI qui est très axée sur l'environnemental. Et là, nous avons voulu aller un cran plus loin que PFO2 qui était notre SCPI navire amiral environnemental que nous avons créé dès 2009, de manière à vouloir aller un cran plus loin et à établir une SCI qui s'appelle bas carbone. Et donc le bas carbone, la stratégie du bas carbone, elle tient en trois mots. Donc éviter les immeubles passoires énergétiques, réduire la consommation d'énergie des immeubles avec des travaux que nous faisons et notamment avec également en incitant le locataire à réduire sa consommation et enfin compenser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de l'immobilier sans réduction ou en tout cas gaz à effet de serre qui serait au niveau zéro. Donc nous compensons à travers donc des opérations que nous proposons également donc aux investisseurs de la SCI Périal Eurocarbone de pouvoir choisir des projets qui permettent également donc de compenser ces gaz à effet de serre et notamment donc avec des projets de reforestation, ce que nous avons fait donc qui était choisi par nos investisseurs donc lors de la dernière assemblée générale de Périal Eurocarbone donc en France donc une entreprise de reforestation, une entreprise également de recyclage du plastique en Roumanie et là qui montre également l'engagement non seulement environnemental de PEC mais également un engagement sociétal très fort.
Produit qu'on peut inclure dans son contrat d'assurance vie.
Alors c'est une unité de compte qui est disponible dans tous les contrats donc d'assurance vie de la place donc Spirica, Maïf, Generali, etc.
Merci beaucoup Eric.
Merci.
Eric Possera, donc président de Périal qui nous accompagnait sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. À très bientôt, bonne journée.
Au revoir Cédric.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
chaque matin, vous le savez, toutes vos questions trouvent leur réponse. Alors n'hésitez pas à nous écrire, notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et donc chaque matin, nos spécialistes sont en plateau. Et on accueille aujourd'hui Sarah Salman. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avocate. C'est l'été, c'est la saison des mariages. On a appris d'ailleurs que 2023 devrait être chargé avec 300 000 cérémonies attendues, du jamais vu. Mais vous, vous avez décidé de prendre presque le contre-pied ce matin. On a compilé quand même quelques questions qui tournent autour de la séparation et de l'argent. Ça vous va ?
Alors c'est bien parce que quand les gens se marient, ils pensent déjà à leur divorce. J'apprécie beaucoup cette vibe.
C'est bien quand même de le... Allez Marc, jugement de 2014, je dois verser une pension alimentaire pour mon fils qui va devenir majeur en août et qui me dit que je vais devoir continuer à la verser. Et il se demande si c'est vrai et si oui, quand ça va s'arrêter ?
Puis-je enfin cesser de payer ? Donc le « enfin » souligne un certain agacement. C'est ce qu'on peut d'emblée avoir. Alors, la pension alimentaire, je vais rappeler pour nos auditeurs, c'est ce qui permet d'assumer les dépenses de la vie quotidienne de son enfant. Donc, l'alimentation, les loisirs, pas forcément un voyage à l'île Maurice, mais en tout cas, l'essentiel. La pension alimentaire, donc, pour Marc, c'est depuis un jugement de 2014. Et j'entends beaucoup de personnes me dire, bon, il va avoir 18 ans, j'arrête. Ou alors, j'ai entendu il y a deux semaines, 25 ans, c'est bon, c'est fini. Eh bien, non. C'est pas parce qu'on a 18 ans ou 25 ans que ça s'arrête. Donc, la question qui vient, c'est, mais finalement... On arrête quand ? Est-ce qu'on doit entretenir son enfant à vie ? Eh bien, pas du tout. Enfin, ça dépend de l'enfant qu'on a. C'est jusqu'à ce que l'enfant soit autonome. Être autonome, c'est avoir une activité rémunérée au minimum au SMIC. Alors, la difficulté, c'est qu'on peut avoir des enfants qui font des études très longues. Donc ça, c'est positif, c'est bien. Mais il faut que les études soient... Il faut que ce soit sérieux, en fait. Alors, je dis pas qu'il y a que le droit qui est sérieux.
Vous voulez dire qu'aller s'inscrire dans une énième fac de socio, alors, ou de gravure sur verre ou de macramé ?
Non, parce qu'on peut faire pareil. Un an de médecine, un an de droit, un an d'école de commerce, un an d'anglais. À la fin, on a fait 4 ans d'études, mais on n'a rien ressorti. Ouais. Donc, il faut quand même qu'il y ait un suivi dans les études. Dans ces cas-là, on peut quand même en discuter. Ouais. En revanche, ce que Marc peut faire, c'est qu'il peut tout à fait demander à ce que la pension alimentaire soit révisée. Mais pour cela, il faut qu'un changement de circonstance depuis 2014, c'est-à-dire si ses revenus ont baissé. J'ajouterais, si son fils ne trouve pas d'emploi parce qu'il n'a pas envie d'en trouver, on peut aussi se poser des questions. Donc, il faut être dans une dynamique un petit peu quand même proactive, si je puis dire.
Visiblement, il a quand même hâte, Marc, d'arrêter de payer.
Il y a beaucoup de gens qui ont hâte.
S'il ne paye pas.
Alors ça peut être un délit.
Peut être condamné ?
Pénalement, oui, ça peut être un délit d'abandon de famille réprimé par une peine maximale. Donc maximale, c'est pas forcément ce qu'on a, mais ça existe. 2 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Donc c'est pas rien. Alors il y a des conditions parmi lesquelles avoir une décision de justice. Donc Marc, un jugement de 2014, c'est possible. Ne pas payer pendant minimum 2 mois. 2 mois, ça va quand même assez vite. Et j'ajouterais pour nos auditeurs qu'il y a beaucoup, beaucoup de pères, parce que c'est souvent le père qui verse à la mère pour l'enfant, qui ne payent pas la pension alimentaire et des mères qui parfois ne font rien. Moi, j'invite tous les débiteurs à faire quelque chose parce qu'il n'y a pas de raison, quand on a une décision de justice, de tout assumer soi-même. Donc Marc, je vous conseille vivement de continuer de payer, même si... Alors, vous pouvez en revanche suivre de près les études de votre fils. Pour éviter...
Pour choper le moment où il va arrêter et là dire, ok, c'est terminé. Bon, question de Maurice. Après 20 ans de mariage, il a été condamné il y a un mois et demi par jugement à verser 50 000 euros de prestations compensatoires. Il trouve que c'est beaucoup à son ex-épouse et il se demande si c'est déductible des impôts.
Moi, je vais commencer là encore par expliquer rapidement ce qu'est une prestation compensatoire. C'est ce que l'on verse, ça peut être une somme d'argent, l'attribution d'un bien sous certaines conditions, pour compenser la disparité de niveau de vie causée par la rupture du mariage, donc du divorce. Alors, ce qui est beaucoup, c'est toujours beaucoup pour celui qui donne et pas assez pour celui qui reçoit. Hein.
C'est souvent
là,
comme ça. Hein.
On va quand même... Alors, la question souvent, c'est alors le principe, oui ou non, prestation compensatoire, et ensuite, combien ? Le combien, il y a plusieurs critères. La durée du mariage, alors là, c'est 20 ans. C'est quand même beaucoup. L'âge et l'état de santé des époux, les diplômes, les patrimoines, les revenus, les droits à la retraite. Donc, ce sont un faisceau d'indices sur lequel le juge aux affaires familiales peut se fonder. Donc, ça peut être prévu à l'amiable par un divorce amiable. Bon, là, c'est pas le cas, c'est condamné.
Ça n'a pas l'air.
Non, ou alors par le juge aux affaires familiales. Je rappelle aussi pour nos auditeurs, parce que c'est très important, qu'en matière de divorce, la représentation par avocat est obligatoire. Donc, ça, c'est important. Ensuite, il n'est pas précisé comment il va verser ses 50 000 euros. Est-ce que c'est en une fois ? Donc, one shot, 50 000 euros, ça fait mal, mais au moins c'est fait. Ou alors en capital échelonné, c'est-à-dire sur une durée qui ne peut pas excéder 8 années. sauf exception, ou un panachage des deux, donc un petit peu en une fois, et sinon un panachage. Donc dans tous les cas, il y aura une réduction d'impôt, il faudra le mentionner au moment de la déclaration annuelle, donc c'est un petit peu le lot de consolation.
Ouais, c'est ça. C'est...
Mais c'est sûr que ça fait jamais
plaisir. Pour faire passer la pilule, quoi.
Oui, alors après, peu importe qui demande le divorce, même si c'est madame qui l'a demandé, rien ne l'empêche de demander une prestation compensatoire si les critères sont réunis. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et il y a quand même, moi j'ai beaucoup de dossiers où il y a des prestations compensatoires.
Voilà donc quelques éléments de réflexion autour de ce sujet et le fait qu'effectivement, bah, vous pourrez quand même déduire des impôts. Clara va se marier en octobre prochain et elle nous précise que son futur mari veut absolument qu'il y ait un contrat de mariage. Et Clara s'interroge, elle se dit, est-ce que finalement c'est pas un moyen d'anticiper un éventuel divorce à venir ?
Alors...
Bonne ambiance.
Il y a une ambiance, mais un petit peu de pragmatisme aussi, parce qu'on va rappeler les statistiques du divorce. Il y a un mariage sur deux qui se solde par un divorce. Alors, on va dire à Clara qu'on peut voir le verre à moitié plein. Il y a un mariage sur deux qui fonctionne. C'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une manière d'anticiper un éventuel divorce ? Moi, j'espère quand même que votre mari se marie en se disant que ça va durer. Je pense plutôt qu'il est bien conseillé ou alors qu'il a les bons réflexes. Moi, je recommande vraiment à tout le monde de faire un contrat de mariage. C'est quand même... Mais à mon sens, c'est la base. Et ça ne veut pas dire qu'on divorce. Si ça se trouve, on divorcera jamais, ouais, et tant mieux. Et puis, il y aura quand même ce contrat. En revanche, Clara, si vous voyez, elle ne précise pas quel contrat de mariage. Alors, bon, vu la tournure, j'en déduis que c'est un contrat de séparation de biens. Ça veut dire que chacun reste propriétaire de ses biens. Et c'est mieux, parce que si on part de rien et qu'ensuite, il y en a un des deux qui va acquérir beaucoup plus que l'autre avec ses deniers, eh bien, ça peut causer quelques difficultés au moment du divorce. Alors, il y aura un gagnant, un perdant, hein. Là, c'est vrai que...
Mais c'est aussi une protection, si on monte une entreprise, si...
Non, mais c'est une énorme protection. Et moi, je pense vraiment que chacun devrait faire un contrat de mariage de séparation de biens. Il faut pour cela se rendre devant un notaire qui a un devoir de conseil à cet égard, et ça évite vraiment des catastrophes au moment du divorce. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ne le font pas, si c'est pour éviter le coût du notaire, si c'est par naïveté, en se disant, bah, un petit peu comme Clara, mais c'est déjà anticiper un divorce, alors que pas du tout, c'est plus sécurisant pour les deux parties, enfin, surtout pour une que pour l'autre en général.
Et on rappelle que ce n'est pas parce qu'on s'est marié sans contrat qu'on ne peut pas, un jour futur, dans le temps qui vient, faire un contrat.
On peut faire évoluer son régime matrimonial devant un notaire. Il faut que les deux parties soient d'accord, donc Clara et son mari. Mais en général, les gens le font.
Que les enfants soient d'accord aussi.
Oui. Mais il faut vraiment que... En général, c'est vrai qu'on le fait plutôt au début. Et ce qu'on constate, c'est qu'après, c'est plus dur de faire passer une séparation de biens. Parce que là, la personne va se dire, mais pourquoi ?
Bah non, mais si on monte une boîte, par exemple, qui peut être risquée, etc.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que moi, je recommande vraiment vivement de le faire au tout début, enfin, avant le mariage, tout simplement, au moins, c'est fait.
Bon, et si on ne fait rien et qu'on n'a pas de contrat, c'est quoi le régime ?
Alors, c'est la communauté réduite aux acquets. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça. C'est le régime par défaut. Alors, selon ce régime, tout ce qui est c'est réputé partagé aux deux à compter de la durée du mariage. Alors, si les deux démarrent à zéro, eh bien, il y aura beaucoup à partager. Si les deux se marient à 80 ans, a priori, il y aura moins à partager. Parce qu'il y a beaucoup de... En fait, actuellement, il y a beaucoup de deuxième, troisième, voire quatrième mariage. Je n'ai pas encore fait de carte de fidélité chez moi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se marient plusieurs fois.
Bon.
Enfin, pas en même temps.
Oui, c'est ça. Chacun de son côté. Marie-Cécile a vécu 19 ans avec son concubin. Et il se sépare à la demande du concubin. Elle gagne 1 800 euros par mois et lui, 6 500 euros. Et elle se demande quelle indemnité financière elle peut espérer. Elle nous dit plutôt 5 000 ou plutôt 50 000 ?
La question est très intéressante. Elle l'aurait été d'autant plus si, Marie-Cécile, vous aviez été mariée. Là, vous êtes en concubinage. Donc 19 ans, c'est beaucoup. 1 800, 6 500 ? C'est un écart important, plutôt 5 000 ou plutôt 50 000. Ben moi, je vais vous dire plutôt rien du tout. Pourquoi ? Eh bien oui, parce que la prestation compensatoire dont on parlait, je ne sais plus, je crois que c'était pour Marc ou Maurice, c'est uniquement si on est marié. Et d'ailleurs, au moment de la rédaction du Code civil, quand il a été promulgué en 1804, Napoléon Bonaparte aurait dit « Les concubins se passent de la loi, et bien la loi se désintéresse d'eux. » Sous-entendu, pas de disposition juridique relative au concubinage. Alors depuis 1999, ça a évolué, il y a plus de cadres, mais là, il y a beaucoup de personnes, pas qui se font avoir, mais qui se disent « je vais obtenir quelque chose parce que quand même, on a vécu longtemps ensemble », et bien même pour la prestation compensatoire, on prend en compte la durée du mariage, pas la durée du concubinage antérieure au mariage.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire donc, que si on, là, bah là, si on est concubin, qu'on se marie et qu'au bout d'un an, finalement, ça part en sucette...
Bon, alors il faut un peu plus d'un an pour obtenir. Mais là, je veux dire, c'est vraiment... malheureusement, elle ne pourra même pas avoir de devoir de secours. Le devoir de secours, c'est ce qu'on peut avoir pendant la durée de la procédure du divorce selon certaines conditions. Et en général, ça s'enchaîne avec la prestation compensatoire. Donc là, ni 5 000, ni 50 000. Bon, et le train de vie va baisser. Là,
Là, c'est sûr.
Malheureusement, ça va baisser un petit peu.
Céline vient de se séparer de son compagnon avec qui elle a eu un enfant. Elle lui a demandé de lui verser 500 € par mois pour leur fille. Mais il ne veut pas. Que dois-je faire ?
En fait, on ne parle pas mariage, on parle séparation aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Alors, la question est intéressante aussi parce que contrairement à Marie-Cécile, Céline demande pour son enfant et pas pour elle-même. Donc là, c'est différent. On peut tout à fait solliciter une pension alimentaire pour son enfant. Je précise toutefois que contrairement au mariage où le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant, là, il faut que le père l'ait reconnu afin qu'un lien de filiation soit établi. Donc si c'est le cas, Céline, vous pouvez tout à fait demander une pension alimentaire, donc à l'amiable, il ne veut pas. Bon, on peut quand même le demander et essayer de négocier pour avoir une convention parentale à faire homologuer par le juge aux affaires familiales qui aura la même force qu'un jugement. Et dans cette convention, on va prévoir le mode de garde, résidence alternée, résidence classique, etc. On va prévoir les vacances scolaires, la fête des mères, les anniversaires. Au moins, tout est cadré. Et si jamais il ne paye pas la pension alimentaire, il y a un document officiel. Mais la question, c'est s'il ne veut pas, donc puisque c'est vraiment la question, que dois-je faire ? Eh bien, il va falloir saisir le juge aux affaires familiales qui va trancher sur le principe et sur le montant. Sur le principe, parce que c'est pas un dû, peut-être qu'il est impécunieux. Ou peut-être tout simplement qu'il y a une résidence alternée avec un temps de garde équivalent et des ressources équivalentes. Dans ce cas-là, eh bien, il n'y aura peut-être pas de pension alimentaire. En fait, ce que regarde le juge aux affaires familiales, c'est pas votre intérêt, Céline, ni celui de votre ex, mais celui de votre fille. Il faut qu'elle ait un train de vie équivalent chez son père et chez sa mère, tout simplement. Donc, vous pouvez la demander. Pour cela, il faudra démontrer vos ressources, vos dépenses.
Et les ressources de l'autre, c'est ça.
Ah oui, tout à fait. Chacun devra montrer ce qu'il a.
Vous nous parlez de résidence alternée. On rappelle qu'il y a l'enfant, il est attaché à une part fiscale, demi-part fiscale, quand c'est le premier. Qu'est-ce qui se passe s'il y a résidence alternée ? Qui est-ce qui récupère la part fiscale ?
Demi-part fiscale, parce qu'un seul enfant, c'est 0,5. Oui, il a 0,25 chacun, sauf si on s'arrange autrement. Et il faut chacun le déclarer. Il faut chacun mettre un enfant à charge, préciser la résidence alternée. Et effectivement, il n'y aura pas 0,5, mais 0,25 si les temps de garde sont équivalents. Donc oui, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, mais c'est toujours ça de prix.
Donc on divise.
On divise. Bah, c'est le principe de la résidence alternée. C'est que tout... Ah, je voudrais juste ajouter, il faut vraiment prévoir les dépenses exceptionnelles. Parce qu'en fait, si jamais, admettons, elle a 500 € et qu'il y a une dépense de santé à 3 000 € et qu'elle doit la payer seule, eh bien, ce n'est pas pertinent. Il faut vraiment prévoir un partage des dépenses exceptionnelles.
Ah oui,
et les lister au maximum. Par exemple, s'il y a le permis de conduire et que l'enfant le rate autant de fois que moi, eh bien, c'est bien de l'avoir prévu. Parce que sinon, la pension alimentaire sera absorbée...
Par le permis de conduire.
Ah oui, surtout si l'enfant... Nul et à charge. Je l'ai eu, c'est le principal.
D'accord. Jacques, mon épouse souhaite qu'on se sépare après 35 ans de mariage. Elle me dit qu'une rente viagère serait le plus intéressant. Est-ce le cas ?
Oui, ce sera le plus intéressant pour elle, mais pas forcément pour vous.
C'est-à-dire ?
Pour elle, recevoir une somme d'argent à vie...
Ouais.
C'est intéressant pour tout le monde. La rente viagère est de moins en moins prononcée, il faut quand même le savoir. C'est une somme d'argent qui est versée à vie. Enfin, je veux dire, effectivement, jackpot pour elle... Mais ça dépend de l'âge et ou de l'état de santé des époux. C'est de moins en moins prononcé, je le rappelle. Alors après, Jacques, si vous estimez que c'est intéressant ou pas, mais que vous estimez que vous voulez lui faire ce cadeau, vous pouvez tout à fait le faire. Mais il faudra...
On peut le suggérer au juge, par exemple ?
Non, dans ce cas-là, il peut faire un divorce amiable par acte contresigné, divorce par acte d'avocat. Et divorce amiable, il faut être d'accord sur le principe du divorce et sur les effets. Et là, c'est tout à fait possible. Dire que ce sera intéressant pour elle, oui. Pour vous, peut-être un peu moins. On peut peut-être... voir si une prestation compensatoire dont on parlait tout à l'heure serait peut-être intéressant. Bon, 35 ans de mariage, c'est beaucoup, mais ce n'est pas le seul critère. Il faut aussi le rappeler. Donc, voyez d'abord avec votre conseil, puisque là encore, pour divorcer, il y a représentation obligatoire.
Merci Sarah.
Merci à vous.
Sarah Salman, régulièrement qui répond à vos questions sur l'antenne de BFM Business. À très bientôt.
À bientôt.
Le marché parisien, il est en difficulté hein, et on va continuer à le suivre tout au long de la journée, notamment avec BFM Bourse. D'ici là, c'est Guillaume Paul qui vous accompagne pour 60 minutes business. Bonjour Guillaume.
Bonjour mon cher Cédric.
Au sommaire.
On va parler de Deezer qui est en grande difficulté aussi.
Ouais, là aussi.
Entrée en bourse ce matin, Euronext, ça se passe pas bien.
Moins 23%.
Oui, c'est dur. Alors, beaucoup d'ambition, cela dit, notamment pour réduire un petit peu l'écart avec Spotify. Est-ce que c'est possible? Il y a du boulot, on verra ça avec Frédéric Simotel. Margrethe Vestager, ce matin, sur BFM Business, qui nous dit on réfléchit bien à une réforme du mode de calcul des prix de l'énergie. On va la réécouter. Et puis, Chinois et Américains qui se reparlent peut-être pour alléger temporairement cette guerre commerciale. Vous savez, mon cher Cédric, faut pas être naïf. Les Américains en ont besoin hein, pour juguler un petit peu cette inflation. Donc, on serait bien content de faire revenir un peu plus de produits chinois à moindre coût. Donc, on racontera tout ça, notamment sur BFM Business dans un instant.
60 minutes business et Guillaume Paul. Le marché en baisse d'un 19%. Ce sont les 5900 points qui sont en jeu. On est en dessous pour le moment. Et surtout, attention aussi à l'euro-dol. On est à 1,0294. C'est le plus bas niveau de cette parité depuis 20 ans. Voilà les thématiques qui seront au cœur des programmes de BFM Bourse cet après-midi. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.